Bon, alors, comme je l'ai annoncé au début de cette séance, on a donc le plaisir d'avoir aujourd'hui un séminaire à deux voix qui porte sur un sujet très important puisque, comme je l'ai expliqué dans le cours, toutes ces questions de structure locale et de déformation structurelle sont cruciales et la spectroscopie par microscopie électronique, que ce soit STEM ou ILS et techniques reliées, apporte des informations très précieuses sur ces matériaux, films minces, hétérostructures, etc. Et donc, on a la chance, au laboratoire de physique d'Orsay, de physique des solides d'Orsay, d'avoir un des meilleurs groupes au monde, je crois qu'on peut le dire, qui a été pionnier dans ces techniques. Et j'ai le plaisir de voir Christian Colliex dans l'assistance ici, qui largement responsable de la création de ce groupe il y a bien des années. Le séminaire d'aujourd'hui va être donné par Odile Stéphan, qui dirige ce groupe actuellement, on peut dire ça, ou coordonne cette équipe. Odile est donc professeure à l'Université Paris Sud, et elle va chauffer la salle.
Voilà,
c'est la première partie du concert. La deuxième partie étant donnée par Alexandre Glotter, qui tous les deux ont fait leur thèse à des époques un peu différentes au LPS. Alexandre est chargé de recherche au CNRS, également dans la même équipe. Et donc, bon, le séminaire va durer 2 fois 40 minutes, quelque chose comme ça. Il y aura un peu de temps pour les questions. On va essayer d'avoir complètement terminé à 13 heures pour ne pas épuiser l'assistance. Voilà, donc sans plus de fioritures, je laisse la parole à Odile en les remerciant tous les deux d'être venus présenter tous ces travaux.
Merci, merci beaucoup Antoine. Alors évidemment, c'est un grand honneur hein, pour nous d'être là et un grand bonheur aussi d'avoir l'occasion de vous présenter, de vous donner un aperçu des possibilités de ces techniques de microscopie électronique en transmission pour apporter un certain nombre de réponses aux questionnements actuels en physique des oxydes. Et donc le propos de ce séminaire, c'est dans une première partie de décrire le principe de ces techniques, principe de formation de l'image, les principes sous-jacents à la spectroscopie de perte d'énergie d'électrons, qui est la spectroscopie REN, pour essayer de sonder la structure électronique de ces matériaux. Et puis également, donc dans cette première partie, donc le deuxième objectif, ça va être de vous montrer quelles sont les performances actuelles, hein, donc quelles sont les possibilités en termes de résolution spatiale, en termes de sensibilité du signal pour détecter donc, un certain nombre de signaux pertinents et extraire des informations pertinentes dans cette dans le contexte qui nous intéresse. Et donc la deuxième partie de l'exposé, c'est une fois que j'aurai donc bien chauffé la salle, c'est Alexandre qui la donnera. On rentrera plus au cœur de ce domaine de la physique des oxydes, plutôt de la physique des hétérostructures d'oxydes, avec trois exemples. Qui sont donc, en tout cas pour les deux premiers, vraiment au cœur du cours d'Antoine, et puis un troisième exemple, peut-être un petit peu plus en marge, mais qui permettra d'illustrer les effets de texturation dans des films minces d'oxyde de vanadium. Et puis bon, on terminera, mais très rapidement, par vous donner quelques perspectives, comment est-ce qu'on voit le domaine évoluer et quelles sont justement les nouvelles informations auxquelles on peut prétendre pouvoir accéder dans le futur. Alors, on va se placer dans le cadre de la microscopie en transmission, au sens large. Et donc, dans ce contexte, un microscope, c'est quoi ? Un microscope, c'est une source, un échantillon évidemment d'intérêt. Donc, cette source éclaire l'échantillon qui va interagir avec l'échantillon. Et puis, on va former une image agrandie sur un détecteur, une image agrandie de cet échantillon grâce à une lentille. Donc ça, c'est le principe de base de la microscopie qui utilise un système optique. Et je vous ai représenté en bas une variante de ce type de microscope. Il s'agit toujours d'un microscope en transmission. Mais vous voyez que cette fois-ci, la lentille est placée avant l'échantillon et fait converger le faisceau pour éclairer donc l'échantillon, non pas suivant une zone étendue maintenant, mais suivant une zone la plus petite possible sur cet échantillon. Et on va détecter ensuite, sur un détecteur, les faisceaux qui vont être diffusés à différents angles du fait donc, de l'interaction de ce faisceau incident avec l'échantillon. Et alors, pour former une image, dans ce cas-là, on va balayer ce faisceau focalisé à la surface de l'échantillon et acquérir de manière séquentielle une image en intégrant donc l'intensité diffusée sur un détecteur en fonction de la position de la sonde. Ça, c'est le principe de la microscopie électronique en transmission à balayage. Et dans le cadre de ce cours, en fait, on va se concentrer essentiellement sur ce type de microscope, qui est un type de microscope qui s'est généralisé. Et vous verrez l'intérêt de cette approche en faisceau focalisé. Alors, il va être beaucoup question de résolution, résolution spatiale. On va vouloir descendre à la résolution atomique. Il y a évidemment différents types de microscopes en transmission disponibles. Je démarre ici avec le microscope optique. Alors, le microscope optique, vous le connaissez tous, hein, vous en avez tous utilisé un au collège, hein, je pense, pour regarder des grains de poussière ou pour regarder des objets micrométriques. Le microscope optique utilise donc des photons dont la longueur d'onde est la longueur d'onde du visible. Et le pouvoir de résolution d'un tel microscope est limité à 500 nanomètres. Typiquement, 500 nanomètres, c'est la longueur d'onde du rayonnement que vous utilisez. On verra pourquoi c'est la longueur d'onde, c'est la valeur de la longueur d'onde, hein, qui fixe le pouvoir de résolution d'un système optique. Il y a évidemment derrière les phénomènes de diffraction, on reviendra là-dessus. Donc si vous utilisez un rayonnement visible, la résolution dans votre image, elle va être micronique, typiquement, et vous avez ici une image de microtubules dans une cellule, en microscopie confocale, donc c'est une image conventionnelle où bon, les détails de cet objet ne sont pas facilement perceptibles. Alors, il serait faux de dire que la microscopie optique ne permet pas d'aller au-delà de la résolution micronique. Et il y a effectivement, en particulier dans le domaine de la biologie, beaucoup de développement qui consiste à utiliser des fluorophores, donc on va préparer l'échantillon de telle façon à ce qu'on va mettre des labels qui vont émettre de la lumière. Et ici, à partir de séquences temporelles, on va regarder le maximum, la position du maximum de l'émission, et regarder en fonction de la manière dont les fluorophores clignotent, on va pouvoir construire une image qui est bien mieux résolue. Simplement que là, on triche un petit peu, on s'intéresse simplement à la position du maximum d'intensité. Dans le cas du STED ici, qui a valu le prix Nobel de chimie en 2014 à son inventeur, on utilise aussi des fluorophores et là on va façonner la forme du faisceau de photons pour essayer de dépléter la zone périphérique du fluorophore qui émet et donc localiser en dessous de la limite de diffraction l'émission de photons. Et donc on a là une très très forte amélioration de la résolution, si bien qu'en microscopie optique, hein, on a des moyens, alors un peu compliqués, de vaincre cette limite de diffraction, mais ces moyens existent et on dispose maintenant donc de résolutions de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Alors, une autre façon de faire, puisqu'on est limité par la longueur d'onde des photons, elle est trop grande par rapport aux échelles qui nous intéressent, c'est d'utiliser d'autres photons, les rayons X, qui ont des longueurs d'onde plus courtes. Et vous avez ici donc, une image qui est obtenue avec un microscope à rayons X en transmission à balayage, hein, le STIXM. C'est une image qui est prise sur le site de PSI, le Paul Scherrer Institute, hein, et obtenue sur la Swiss Light Source, la ligne synchrotron suisse, où on voit donc effectivement une résolution nanométrique. Cependant, ici, c'est encore une fois un petit peu décevant parce que la résolution est encore loin de la longueur d'onde des photons X, là, qui est de quelques nanomètres. Et ça, c'est dû au fait qu'on ne sait pas faire de bonnes lentilles pour les rayons X, et donc on est limité par la qualité des lentilles. Alors, une alternative, c'est d'utiliser des électrons. Alors, pourquoi des électrons ? Parce que les électrons, ce sont des particules sympathiques parce qu'elles sont chargées. Et donc, on doit pouvoir jouer sur leur trajectoire grâce à des champs électromagnétiques et donc savoir fabriquer des lentilles de façon assez performante. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que depuis l'avènement de la mécanique quantique, on sait qu'on a fait la démonstration que l'électron se comportait aussi comme une onde. Et donc, il est a priori possible de construire des microscopes électroniques avec les principes de formation de l'image qui sont directement transférables de ceux que l'on connaît pour les photons visibles. Et puis, puisqu'encore une fois, les électrons sont chargés, on peut les accélérer, et en les accélérant, diminuer leur longueur d'onde. Hein. On associe une longueur d'onde de Breuil, qui va être d'autant plus petite que la quantité de mouvement des électrons est importante, et donc on doit pouvoir, justement, in fine, disposer d'instruments qui utilisent des rayonnements de l'ordre de quelques picomètres. Quelques picomètres, c'est très petit devant les distances interatomiques, donc on devrait, a priori, dans le cas où on est uniquement limité par la diffraction, disposer d'instruments, de microscopes qui permettent de bénéficier de la résolution atomique. Alors, il va être question beaucoup de résolution, effectivement, de résolution atomique. Une façon de caractériser les performances d'un système optique, c'est de faire intervenir sa fonction de transfert. Alors, la fonction de transfert, c'est une notion qui est très générale, hein, qui s'applique à tout système linéaire, qui va s'appliquer à tout instrument de mesure. La fonction de transfert, on l'a définie dans l'espace réciproque, donc dans l'espace des fréquences. Et cette fonction de transfert, elle va décrire donc, justement les performances du système et la manière dont le système va filtrer les fréquences, en particulier les hautes fréquences, et donc limiter la résolution dans l'espace direct. Alors, c'est illustré ici. Alors, c'est une approche qui est particulièrement pertinente, évidemment, dans le cas où on regarde des cristaux, donc un objet périodique. Vous voyez ici une image de fond noir. Alors, ce n'est pas très original, c'est STO, encore une fois. C'est une structure qu'on a déjà vu beaucoup et qu'on va revoir encore. Ça, c'est une image de fond noir. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, vous avez les atomes lourds ici de strontium et les atomes de titane ici. Et ce que l'on calcule ici, là, c'est la transformée de Fourier de cette image ici. Donc on est dans l'espace réciproque, on est dans l'espace des fréquences spatiales, et ce que l'on voit, ce sont effectivement les différentes fréquences spatiales associées à l'ensemble des distances dans l'espace direct. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a effectivement un filtre en fréquence, puisque vous voyez qu'on a coupé les fréquences spatiales, les grandes fréquences spatiales ici. Et ce que l'on peut s'amuser à faire, c'est appliquer un filtre en filtrant des fréquences spatiales de plus en plus petites, calculer la transformée de Fourier inverse de cette image ici, de ce cliché de diffraction ici, et voir comment cela influence l'image. Et donc, vous voyez ici que si on laisse passer que deux fréquences spatiales, non, une fréquence spatiale ici, on reconstruit très mal l'image, et on reconstruit d'autant mieux l'image qu'on laisse passer un certain nombre de fréquences spatiales. Alors, un microscope électronique, ça ressemble à quoi ? Ben, vous en avez ici une illustration. Alors ça, c'est une image, une photo un peu ancienne déjà du premier microscope corrigé des aberrations. Je reviendrai là-dessus plus tard. C'est une colonne de microscope. Vous avez le canon ici et vous voyez un certain nombre d'éléments ici. Ces éléments-là, ce sont toutes les lentilles, hein, toutes les lentilles ou les éléments multipolaires qui vont permettre donc d'agir sur les trajectoires électroniques. Il y a un élément ici qui est important, qui est le correcteur d'aberration, on reviendra là-dessus. C'est un élément essentiel dans les microscopes de dernière génération pour améliorer la résolution des instruments. Puis vous avez ici également une autre assemblée d'éléments optiques qui permet d'optimiser le couplage vers un spectromètre pour faire de la spectroscopie de perte d'énergie d'électrons. Alors, je vous parlais donc de résolution limitée par la diffraction. Alors, de quoi parle-t-on ? Bon, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, hein, je le rappelle très rapidement. Dans l'approximation de Gauss, hein, si vous faites de l'optique de Gauss, l'image d'un point ici sur l'axe optique par une lentille est un point. Ça, évidemment, ça n'est en général pas vrai. Ça n'est vrai que par les rayons qui sont très paraxiaux. En général, on doit utiliser un diaphragme. Alors, on verra pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un diaphragme. Et du fait de ce diaphragme, les faisceaux qui rentrent dans la lentille vont être diffractés par le bord de ce diaphragme. Si bien que l'image d'un point n'est plus un point, mais plutôt cette fonction ici, qui est une fonction des rayons, hein, si on prend le module au carré de la fonction d'onde ici. Donc une fonction des rayons qui est élargie, évidemment, qui introduit du flou dans l'image. Et alors, ce que l'on fait, c'est qu'on aime en général utiliser un critère, qui est cette fois-ci un critère dans l'espace direct pour définir une résolution d'un instrument optique, qui est le critère de Rayleigh, qui consiste à regarder à partir de quel moment on est capable de distinguer deux objets dans une image. Vous voyez ici que si les deux objets sont suffisamment éloignés, les effets d'anneau, ici l'effet d'élargissement, les effets d'anneau sont suffisamment faibles pour que l'on puisse distinguer malgré tout les deux objets dans l'image. Et puis on arrive ici à une situation qui est un petit peu extrême où on commence à avoir du mal à distinguer les deux objets dans l'image. Alors, le critère de Rayleigh, il vous dit quoi ? Il vous dit que l'œil est capable de détecter un contraste de 20%. 20%, c'est la différence entre cette, cette position ici en intensité et celle-ci, 20% dans l'image, si mes deux fonctions de Bessel, ici, sont placées de telle sorte que le premier minimum de l'une coïncide avec le maximum de l'autre. Et ça, ça correspond donc, d'après l'allure d'une fonction de Bessel, à une distance qui est 0,61 lambda sur sinus alpha, où alpha est l'angle d'ouverture de la lentille. Donc, vous voyez ici, évidemment, qu'une façon d'améliorer la résolution d'un système optique, c'est soit de diminuer lambda et soit d'augmenter alpha. Alors alpha, on verra qu'on ne peut pas l'augmenter de manière indéfinie. De toute façon, le sinus est limité à 1. Mais lambda, justement, on va essayer de jouer là-dessus pour améliorer le pouvoir de résolution du microscope. Alors si vous mettez des chiffres là-dessus, vous voyez le microscope optique, 500 nanomètres de longueur d'onde, on a des lentilles qui sont suffisamment bonnes pour travailler avec des ouvertures numériques qui sont importantes, hein, 70 degrés typiquement. À ce moment-là, la distance la plus petite que l'on va pouvoir voir à l'image est typiquement 200 nanomètres. Maintenant, si j'utilise un microscope électronique, j'accélère suffisamment mes électrons, typiquement sous une tension d'accélération de 100 kV, j'ai des électrons rapides de 100 kV, leur longueur d'onde, c'est 3 picomètres. Donc on gagne 5 ordres de grandeur par rapport au microscope photonique. Et à ce moment-là, a priori, donc si j'avais affaire à des très bonnes lentilles, hein, je prends 30 degrés ici parce que c'est plus simple, du coup j'ai le 1,5 qui s'en va, vous voyez que le pouvoir de résolution, la distance la plus petite observable sur l'image, c'est 3 picomètres. Alors il s'avère qu'en pratique, pour des raisons que je vais expliquer un petit peu plus tard, les angles d'ouverture sont beaucoup plus faibles, ils sont plutôt voisins du degré, et donc... on verra que ça dégrade le pouvoir de résolution. On est encore loin de la limite de la diffraction. Et ça, c'est dû au fait, justement, que les lentilles sont aberrantes. Les lentilles électroniques que l'on sait fabriquer pour les électrons sont aberrantes. Elles sont aberrantes. Alors, je vous en donne ici une illustration. Encore une fois, hein, une lentille parfaite, l'image d'un point est un point, donc une lentille convertit une onde sphérique en une autre onde sphérique. Hein, on inverse simplement la courbure de la surface d'onde ici. Si maintenant vous introduisez des aberrations, c'est le cas de l'aberration sphérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire converger un peu trop rapidement les faisceaux à grand angle, si bien que les faisceaux n'arrivent plus en phase ici au niveau du plan de Gauss, hein, ils sont déphasés les uns par rapport aux autres, et vous avez donc une modification de cette surface d'onde. La surface d'onde est un peu plus incurvée que ce qu'elle devrait être. Donc vous voyez que les aberrations, l'effet principal ici, c'est d'introduire un déphasage supplémentaire dans les différents faisceaux qui ont été diffusés d'un point objet. Et donc, vous introduisez du flou dans l'image. Et une façon donc, de réduire ce flou dans l'image, c'est de diaphragmer la lentille pour justement se restreindre au maximum avec des rayons paraxiaux et donc réduire ce disque ici. Donc, vous voyez ici que finalement, il va y avoir une compétition entre le fait de diaphragmer la lentille pour réduire les aberrations et le fait de ne pas trop augmenter justement la diffraction par le bord du diaphragme. Et donc, il doit y avoir effectivement un angle optimal pour un microscope qui a des lentilles aberrantes. Alors, je mentionne ici l'aberration chromatique, qui est également une aberration qui peut être particulièrement importante, en particulier lorsqu'on a des électrons qui ne sont pas trop rapides. Alors justement, cette maximisation ici, enfin cet optimum, vous voyez, il a été calculé ici pour un certain coefficient d'aberration sphérique, hein, et pour une certaine longueur d'onde. C'est typiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, une dizaine de milliradians de l'ordre du degré. Et donc, on est limité finalement par les aberrations des lentilles, hein, en microscopie électronique. Et donc si on veut progresser en résolution spatiale, il faut corriger le mieux possible de ces aberrations. Alors ça, je l'illustre à travers ce petit graphique ici que j'aime beaucoup parce que ça montre justement cette compétition entre limite de diffraction et puis effet des aberrations et donc l'évolution de la résolution d'un système optique à travers les âges. Là, vous avez ici donc une première courbe qui correspond en fait aux performances de la microscopie optique et vous avez donc les années ici. Et vous voyez qu'au cours au début du XXe siècle, on avait atteint un palier ici en microscopie optique en termes de résolution. Et ce palier, il est purement, il est fondamental. C'est une barrière indépassable. C'est la diffraction sur le bord de la lentille. C'est la limite fondamentale de la diffraction qui fait que si on utilise des photons visibles, on ne peut pas aller au-delà d'une centaine de nanomètres. Et alors, donc, avec l'avènement de la mécanique quantique, émerge l'idée d'utiliser des électrons à la place des photons et donc de construire les premiers microscopes électroniques. Et vous voyez qu'il y a eu des progrès rapides, hein, dans les performances des instruments. jusque justement dans les années 2000, où on voit qu'on commence à réaccéder à un plateau, là, ça commence à plafonner. Et là, ce n'est pas une limite fondamentale ici, c'est une limite technologique. C'est que les lentilles sont trop aberrantes, et donc on est encore très loin des limites de la diffraction. Il faut trop diaphragmer les lentilles. Et le deuxième saut que l'on voit ici, qui se manifeste dans les années 2000, c'est justement un saut technologique avec la mise au point des correcteurs d'aberration qui permet donc de gagner un facteur 2 en résolution grâce à la possibilité donc, de diaphragmer un peu moins les lentilles. Alors on est encore loin de la limite ultime de résolution puisqu'on est à 20 lambda actuellement, 60 picomètres. Donc il y a encore du progrès à faire sur le plan technologique pour améliorer les qualités des lentilles. Alors, un correcteur, comment ça fonctionne ? Alors, je vous ai dit qu'un correcteur, une lentille en gros aberrante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle modifie la surface d'onde, elle introduit des déphasages supplémentaires au niveau des rayons diffusés par l'échantillon. Alors, une façon de corriger de l'aberration de sphéricité en optique, c'est d'introduire une lentille divergente qui, elle, va justement contrebalancer l'excès de courbure introduit par la lentille convergente. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire avec des lentilles électroniques, on sait le faire avec des lentilles de verre. Et une façon de faire, c'est d'introduire des éléments multipolaires qui vont, de manière itérative, refaçonner correctement la surface d'onde en introduisant donc une correction négative dans une direction et une correction positive dans l'autre. Et en disposant correctement, en jouant sur les symétries, on arrive en combinant donc différents multipôles à essayer, de manière itérative, à refaçonner vers une surface d'onde la plus sphérique possible l'onde, la fonction d'onde électronique. Alors, vous avez ici un exemple, vous voyez tous ces éléments multipolaires qui sont empilés les uns au-dessus des autres pour essayer successivement de corriger des aberrations. Alors, on va rentrer un petit peu plus maintenant dans le principe de formation de l'image. Donc, je vais me positionner dans le contexte d'un stème. Je vais prendre le parti pris donc d'un microscope dont le principe est de focaliser le faisceau d'électrons ici à la surface d'un échantillon mince. Donc, vous voyez, vous avez un ensemble d'éléments optiques, donc des condenseurs, et puis une lentille objectif dont la mission est de former un faisceau le plus focalisé possible, une image la plus petite possible de la source ici à la surface de l'échantillon. Et puis, on va s'intéresser aux faisceaux qui sont diffusés, diffractés à l'infini, ou dans le plan focal image de cette lentille objectif ici, si je regarde la diffraction à l'infini, elle va se manifester dans le plan focal image de la lentille objectif, et donc d'analyser le cliché de diffraction, finalement, qui va se former au niveau du plan focal image de la lentille. Donc, vous voyez la géométrie ici. Je focalise le faisceau le plus finement possible. Je forme une sonde électronique. Vous voyez l'allure de ma fonction d'onde ici, que je vais focaliser sur une colonne atomique. Et je vais regarder donc la propagation de cette sonde à travers l'échantillon mince, le produit de l'interaction de cette sonde avec cet échantillon, et donc analyser dans le plan focal image de la lentille le cliché de diffraction en faisceau convergent. Alors, je vais vous montrer une petite animation ici où on voit le module de la fonction d'onde incidente que l'on va focaliser sur une colonne d'atomes. Et puis ici, donc, le module de la fonction d'onde diffractée à l'infini, donc au niveau du plan focal image de la lentille. Alors, ça doit marcher normalement. Voilà. Donc, vous voyez ici le module de cette fonction d'onde incidente, là, au fur et à mesure qu'elle se propage dans l'échantillon. Donc ça revient à quoi ? Ça revient finalement à regarder l'allure de la fonction d'onde électronique à la sortie d'un échantillon dont j'augmenterai l'épaisseur. Donc on regarde, et c'est ce qui va nous intéresser par la suite, la fonction d'onde à la sortie sur la phase de sortie de l'échantillon au fur et à mesure que l'on augmente l'épaisseur. Donc, si je relance le petit film, vous voyez ici que vous avez au début une fonction des rilles, et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fonction d'onde, finalement, elle reste essentiellement localisée sur la colonne à l'entrée, mais vous voyez aussi qu'elle commence à explorer les colonnes voisines, et elle commence donc à explorer la symétrie du cristal, et donc à être sensible à la cristallographie de l'échantillon. Vous voyez donc que c'est malgré tout, ça reste essentiellement concentré au niveau de la colonne, mais il y a une intensité distribué sur les colonnes voisines, qui est non négligeable et qui va justement permettre d'explorer la symétrie du cristal au cours de la traversée de l'échantillon. Et si vous regardez donc, l'intensité diffractée ici, vous voyez que au départ, alors on va relancer le petit film. Vous voyez donc que le cliché de diffraction se construit, vous voyez les éléments de symétrie qui interviennent, vous voyez peut-être aussi des lignes de Loewe d'ordre supérieur ici, au fur et à mesure donc que l'électron devient conscient de la structure cristallographique qui l'environne. Alors si on regarde donc ça un petit peu plus en détail, le principe de cette formation d'image, donc je prends un schéma simplifié du stème, hein, je focalise le faisceau d'électrons, j'ai le diaphragme ici qui permet donc de fabriquer une sonde avec un angle de convergence alpha donné, et donc je focalise le faisceau d'électrons, je crée une sonde électronique ici que je vais donc appeler psi indice p à la position xp. Donc ici c'est une distribution relativement gaussienne parce que j'ai introduit les aberrations de la lentille. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction d'onde ici? Cette fonction d'onde c'est ni plus ni moins que la transformée de Fourier de la fonction de transfert dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contient donc cette ouverture circulaire, hein, si j'en mets une, et puis toutes les aberrations de la lentille. Donc les aberrations de la lentille, hein, elles se manifestent évidemment ici dans la forme de la fonction d'onde de la sonde que je vais fabriquer. Et puis, dans une approximation linéaire, je vais dire que la fonction d'onde sur la phase de sortie de l'échantillon, donc lorsque la fonction d'onde a traversé 50 nanomètres à peu près du cristal, cette fonction d'onde, elle va s'écrire comme le produit donc de cette fonction à l'entrée par une fonction de transmission. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, hein, une fonction de transmission. Et cette fonction de transmission va caractériser l'ensemble des interactions qui se sont tenues dans l'échantillon. Et essentiellement, si on a affaire à un échantillon mince, cette fonction de transmission, elle, c'est un déphasage. C'est essentiellement un déphasage. Donc l'échantillon, il va déphaser votre fonction d'onde incidente. Et ce déphasage dépend du potentiel, ce qu'on appelle le potentiel projeté. C'est le potentiel coulombien créé par les ions du cristal qui va interagir avec l'échantillon, avec l'électron incident. Donc ce potentiel coulombien, si vous avez affaire à un cristal, il est évidemment périodique. Et puis, donc, je vous ai dit que le plan qui allait nous intéresser, c'est le plan de la diffraction, hein, donc c'est la diffraction à l'infini ici. Et donc, je dois prendre la transformée de Fourier de cette fonction sur la phase de sortie de mon échantillon. Alors, vous voyez ici donc, que finalement, on s'intéresse à une fonction d'onde, l'allure d'une fonction d'onde, la transformée de Fourier donc, de cette fonction transmise ici, en fonction d'une distribution angulaire. Et donc, on va intégrer, suivant différentes distributions angulaires, ça va être le propos du transparent suivant. Si je regarde donc, le faisceau qui est transmis ici, c'est le cône incident, vous le retrouvez ici, hein, ce faisceau qui est transmis, lui, il n'a pas été diffusé. Si je m'intéresse à des effets de diffraction de Bragg, hein, vous voyez que vous avez un premier cône qui va être diffracté à droite, là, un deuxième à gauche. Et puis, ici, vous allez avoir superposition des faisceaux diffractés avec le faisceau transmis. Et là, si vous mettez un détecteur ici, vous voyez que vous allez être vraiment sensible à des effets de phase. Hein, vous allez mesurer les effets de déphasage entre les différents faisceaux. Vous pouvez aussi vous intéresser à ce qui est diffusé à grand angle. Donc là, vous allez intégrer cette intensité ici sur un détecteur annulaire. C'est une petite portion de tout ce qui est diffusé. Hein, c'est quelques pourcents du signal. Et ce signal-là, il est intéressant parce qu'il est complètement incohérent. Vous voyez qu'on est très loin ici de la zone des pics de Bragg. Donc, on a un signal qui est complètement incohérent. Alors, justement, revenons donc dans le plan de la diffraction, hein, ce cliché en faisceau convergent. Vous voyez ici, c'est une échelle log par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça permet de voir très bien donc, les effets, les différents axes de symétrie, donc les effets de la symétrie du cristal. Ça permet aussi de voir les zones les raies de Loewe de plus grand ordre ici. Et donc là ce que vous avez c'est le disque incident, donc c'est l'angle de convergence que vous voyez représenté. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intensité dans l'image c'est quoi? C'est l'intensité en un point XP calculée telle que je vais prendre l'intégrale lorsque je vais intégrer sur une certaine distribution angulaire du module au carré de ma fonction d'onde diffractée. Alors, on va s'intéresser à deux cas complètement limites. Le cas où je suis vraiment en pur contraste de phase, qui consiste à mettre un détecteur qui est quasiment une fonction delta, un détecteur centré sur l'axe optique, où je vais donc intégrer très très peu en angle. Donc si je fais ça, ça revient à remplacer mon expression ici par une fonction delta, et à ce moment-là, bah, cette intégrale elle est particulièrement simple, et vous voyez que ça se limite donc à la transformée de Fourier en Q égale 0. Et ça, si vous reprenez donc, l'expression que je vous ai écrite tout à l'heure, où on avait un produit dans l'espace direct, le fait que j'ai une transformée de Fourier ici, donc j'ai un produit de convolution. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien connu par les microscopistes hein, qui font du contraste de phase. On a finalement la fonction d'onde à la sortie de l'échantillon convoluée par ce qu'on appelle une réponse percussionnelle, hein, qui est la transformée de Fourier de cette fameuse fonction de transfert. Et donc, vous voyez ici que comme j'ai un produit de convolution d'un module au carré, tous les effets d'interférence sont préservés, j'ai bien un contraste, j'ai un contraste cohérent dans l'image. Alors maintenant, si je prends la situation extrême inverse où je vais collecter à très grand angle, vous voyez que là, on a quelque chose de relativement diffus, hein, relativement plat, on n'a plus beaucoup d'oscillations dans la fonction d'onde diffractée, on a peut-être encore un petit peu de signature de ces effets d'ordre supérieur de Laue, mais c'est essentiellement de l'intensité diffusée de manière incohérente. Et dans ce cas-là, on peut, alors c'est quelque chose qui marche bien, on peut approximer l'intensité comme un produit de convolution, cette fois-ci de module au carré, donc là j'oublie tous les effets d'interférence. J'ai ma distribution dans ma sonde, et ici, une amplitude au carré qui est grosso modo une section efficace de Rutherford, donc où je vais avoir une probabilité de diffuser à grand angle qui est proportionnelle au numéro atomique. Donc vous voyez que dans ce genre d'imagerie, on va collecter ce qui est diffusé à grand angle, on va être très sensible au numéro atomique des éléments dans l'échantillon, et on va avoir un contraste qui est essentiellement incohérent, où la résolution spatiale est essentiellement pilotée par la largeur de la sonde. Donc si vous êtes capable de focaliser le faisceau suivant une colonne atomique, vous avez grosso modo, vous êtes capable de séparer donc, les colonnes atomiques d'attribuer une intensité de manière assez simple à un numéro atomique. Donc ça, je vais l'illustrer par la suite. Si on veut donc résumer ce que je viens de dire, donc le fond clair ici, c'est vraiment du contraste de phase. On va être très sensible aux défauts. Le désavantage de ce genre d'image, c'est que c'est très difficilement interprétable. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. L'autre extrême, c'est effectivement lorsque on collecte à très grand angle. À ce moment-là, on est relativement complètement incohérent et on est sensible aux éléments lourds. Et je vais vous montrer des exemples où, du fait de la très bonne résolution des instruments maintenant, on est capable de mesurer avec une très grande précision des déplacements atomiques, avec quelques picomètres. Et puis vous avez des modes d'imagerie intermédiaires où vous allez donc utiliser des anneaux ici à plus ou moins grand angle. Un mode ici sur lequel on va revenir beaucoup parce qu'il est particulièrement utile pour imager les éléments légers, donc en particulier les octaèdres d'oxygène dont Antoine a parlé tout à l'heure, avec l'avantage par rapport au contraste de phase que l'image est relativement plus facilement interprétable parce que le contraste évolue très peu en fonction de l'épaisseur, en fonction des conditions de focalisation du faisceau. La difficulté, c'est qu'il faut être capable de corriger, c'est très très sensible aux aberrations dans votre lentille, il faut être capable de très très bien corriger des aberrations de la lentille. Et puis, un autre mode que Alex illustrera un peu plus tard, qui lui est une image de fond noir, mais très sensible aux effets de désordre et de contrainte, et on verra donc l'intérêt de ces images-là pour sonder la texturation de films minces. Alors j'illustre ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ça c'est du bright field, donc c'est du fond clair très cohérent hein, lorsque je mets un détecteur vraiment sur l'axe optique. Vous voyez ici, c'est une simulation hein, sur, alors c'est encore STO, hein, suivant une autre projection, c'est la projection 1-0, où l'on voit ici donc des doublets. Donc vous avez, alors Alex, aide-moi le code couleur là, en rouge l'oxygène. Alors il est plus gros, mais c'est en rouge l'oxygène. Et le gris ici, c'est le titane. Donc, suivant cette projection-là, on voit des doublets titane-oxygène ici. Et vous voyez donc ces doublets-là, vous les visualisez sur l'image. Donc, vous les visualisez, mais ce que vous voyez aussi, c'est que le contraste s'inverse en fonction de l'épaisseur. de l'échantillon et également en fonction de la focalisation de votre microscope. Donc c'est très très sensible finalement aux conditions d'opération. Et ce qui fait que c'est relativement difficilement interprétable ce genre d'image. Alors le cas du fond clair annulaire, justement, je vous dis que c'est beaucoup plus stable. Hein. Voyez l'intérêt. Ça permet également de visualiser les éléments légers, hein, parce que vous visualisez donc bien les oxygènes. Là, vous les voyez ici les oxygènes. Vous visualisez le titane, vous visualisez évidemment le strontium. Mais vous voyez donc en fonction de l'épaisseur de l'échantillon et en fonction de la défocalisation, il y a toute une zone finalement où l'image est relativement facile d'interprétation. Alors, je finis ces illustrations avec des images de fond noir incohérent. Donc, cette fois-ci, on se passe à grand angle, hein, à très grand angle. Donc, on est incohérent. Vous avez maintenant des clés un petit peu plus précises pour comprendre justement le contraste dans cette image, hein, qui vous a été montrée par Antoine. Ici, on a donc une monocouche ici de lanthane, hein, de LTO, qui est plus lourd que STO. Et donc, vous voyez donc, la signature des atomes de lanthane ici qui apparaissent très clairement dans cette image. Par rapport aux atomes de strontium. Alors, Antoine vous a parlé des conséquences hein, d'introduire une monocouche comme ça dans un tel système. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais plutôt me concentrer sur cet exemple en bas, où là, il s'agit donc d'un dopage par des atomes de tungstène, de VO2. Donc, on introduit des atomes individuels de tungstène, hein. Et l'idée, c'est là aussi de faire du dopage électronique, hein, d'introduire des électrons dans le système. Ce que l'on remarque ici, donc, c'est des points plus intenses, plus blancs, là, vous voyez, ces points plus blancs, ici, vous les visualisez. Et on peut, moyennant un certain nombre de précautions, hein, en particulier, vous voyez que l'intensité dépend de l'épaisseur où se trouve la sonde électronique, mais on peut, moyennant certaines précautions, associer une intensité dans l'image à un nombre d'atomes en projection. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Vous avez donc, sur cette carte ici, des positions où vous avez trois atomes de tungstène dans la colonne atomique, des positions où vous en avez deux, en rouge, ici, et des positions où vous avez un seul atome de tungstène. Vous voyez, donc on peut quantifier le nombre d'atomes de tungstène dans la colonne atomique et voir ici des effets de dimérisation, des effets en particulier de localisation des atomes de tungstène sur des sites plutôt second voisin que premier voisin à cause d'un problème d'encombrement stérique. Hein. On voit que donc les atomes de tungstène ont tendance à dimériser sur des positions second voisins dans ces structures-là. Alors, je finis par illustrer donc, ces possibilités sur un très bel exemple de la littérature. Hein, c'est Pablo Zupko qui s'intéresse aux ordres ferroélectriques dans des hétérostructures d'oxyde. Vous avez ici justement des cartes de mesure de déplacement cationique dans des hétérostructures, donc c'est PTO, hein, PTO est ferroélectrique, STO est paraélectrique, et vous voyez ici comment on crée des structures de vortex et d'antivortex, hein. Alors vortex avec une rotation dans un sens et antivortex une rotation dans un autre. Ce que l'on a fait ici, ce qui a été fait dans ce travail, c'est de mesurer le déplacement de l'atome de titane. Donc c'est une image de fond noir, hein, donc on n'est pas sensible aux oxygènes. Alors là, on fait quand même un certain nombre d'hypothèses, hein, lorsqu'on en déduit les propriétés justement ferroélectriques de ces matériaux uniquement à partir du déplacement des atomes de titane, hein, des cations. Mais bon, ça, dans la plupart des cas, ça marche assez bien. Donc vous voyez ici qu'on mesure donc, le déplacement de l'atome de titane ici, qui est de quelques picomètres, hein, une dizaine de picomètres, dans ces hétérostructures-là, et on met en évidence donc, ces effets de vortex qui permettent de minimiser l'énergie électrostatique, hein, les effets de discontinuité polaire en particulier, minimiser l'énergie élastique due à des effets de contrainte. Et donc, c'est très belle, ces structures complexes dans ces hétérostructures. Alors, toujours sur ces histoires de déplacement d'atomes, on a vu la possibilité de mesurer des déplacements en fond noir. Je vous montre ici une caractérisation un petit peu plus complexe parce qu'on s'intéresse. On va utiliser non seulement le fond noir annulaire là, pour regarder les déplacements de l'atome, le cation B, mais également on va pouvoir avoir accès au déplacement des atomes d'oxygène. Donc là, on a une caractérisation plus complète des déplacements dans une structure ferroélectrique. Alors ça, c'est une collaboration avec Vincent Garcia, Emmanuel Bibès, Agnès Barthélémy à Thalès, où il s'agit donc de piloter la transition métal-isolant dans une manganite ici, la piloter de manière ferroélectrique, en injectant des charges aux interfaces en particulier, grâce à un ferroélectrique ici. Alors vous voyez le système, donc vous avez le ferroélectrique qui est ici, là vous avez une électrode de cobalt-platine, là, et puis vous avez la manganite qui est en dessous. Et donc il y a eu une polarisation qui a été faite, ex situ, de ce système-là, avec une polarisation qui a été induite donc, en utilisant l'électrode déposée ici. Et alors, ce qui est remarquable ici, c'est que ces déplacements, cet effet de polarisation, il est préservé de manière permanente et il est observable en microscopie électronique. Donc il est observable ici, sur ces images de fond noir, où vous voyez donc des déplacements. Oups là, pardon. J'ai appuyé sur le mauvais. Vous voyez des déplacements ici des atomes plutôt vers le bas, hein, donc du fer et des atomes d'oxygène vers le bas, alors qu'ici on a un déplacement plutôt vers le haut des atomes de fer et d'oxygène, donc qui correspondent donc avec une polarisation vers le bas et une polarisation vers le haut dans les deux cas. Donc la possibilité donc, de caractériser finement ces déplacements ici. Alors, je vais terminer donc, cette partie sur l'image et vous dire quelques mots de la spectroscopie. Donc j'en profite pour décrire le microscope hein, sur lequel on travaille, donc un microscope qui permet de focaliser le faisceau d'électrons à la surface de l'échantillon, on a un faisceau le plus fin possible. Et alors vraiment la stratégie de ce genre de microscope, c'est de permettre une approche multisignale. Et ça c'est très intéressant, parce que vous voyez qu'à partir de ce point d'analyse ici, je peux en parallèle détecter des faisceaux diffusés à différents angles qui vont porter différents types d'informations. Donc les faisceaux à grand angle diffusés à grand angle ici, c'est l'image de fond noir dont j'ai parlé tout à l'heure. Si je sélectionne la diffusion inélastique qui se manifeste plutôt à petit angle et que je l'analyse via un spectromètre magnétique, je vais pouvoir faire des expériences de spectroscopie de perte d'énergie d'électrons. Je peux aussi placer un détecteur de rayons X qui va détecter les rayons X émis lorsque l'échantillon se désexcite pour faire de l'analyse chimique élémentaire, et vous voyez ici à la résolution atomique. Je peux aussi, c'est quelque chose que fait Orsay, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, collecter non pas les rayons X, mais les photons visibles émis par un échantillon. Ce sont des expériences de spectroscopie par cathodoluminescence qui permettent de sonder, par exemple, des modes plasmons radiatifs, en l'occurrence dans ce cas-là, ou de sonder les propriétés d'émission d'émetteurs quantiques, par exemple. Alors, on va s'intéresser à la spectroscopie de perte d'énergie d'électrons. Donc, le principe, c'est d'analyser, donc de mesurer la perte d'énergie subie par un faisceau d'électrons lorsqu'il a interagi avec un échantillon, donc lorsqu'il a induit un certain nombre d'excitations dans l'échantillon. On fait ça en appliquant un champ magnétique qui va courber les trajectoires électroniques en fonction de la vitesse des électrons, et on acquiert donc sur un détecteur un spectre. Vous voyez les caractéristiques ici. C'est un spectre qui va courir une très large gamme spectrale, hein, qui va aller donc de la gamme de l'infrarouge, si on n'est pas trop masqué par ce faisceau transmis ici, dont la largeur peut un peu masquer la gamme de l'infrarouge, en passant par le domaine du visible, de l'ultraviolet vers la gamme des rayons X mous. Et aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à cette gamme spectrale ici, qui est tout à fait analogue à ce que l'on peut sonder dans un synchrotron lorsqu'on fait de la spectroscopie d'absorption des rayons X. Alors, à ça, il faut combiner, à cette possibilité de focaliser le faisceau d'électrons très finement sur l'échantillon, il faut combiner la possibilité de déplacer ce faisceau d'électrons à la surface de l'échantillon et d'acquérir non pas un seul spectre, mais une collection de spectres. Alors ça, c'est illustré ici sur un nanotube de carbone, qui est un objet qu'on aime bien aussi à Orsay. Vous voyez, lorsqu'on déplace le faisceau d'électrons focalisé à la traversée de cet objet-là, on acquiert une collection de spectres. Vous voyez ici donc, les signatures spectrales qui évoluent en fonction de la position de la sonde, hein, depuis le point A vers le point B, avec la signature du carbone, et puis l'apparition d'un signal supplémentaire ici pour les pixels d'analyse centraux qui correspondent à un signal supplémentaire d'azote et qui vous permet d'identifier un remplissage d'azote, par exemple, dans ce nanotube. Donc, ça vous montre donc les possibilités du coup, de combiner image et spectroscopie, de faire la spectromicroscopie à l'échelle atomique si les lentilles sont suffisamment bien corrigées des aberrations. Alors, quels sont les signaux que l'on va pouvoir mesurer? On va s'intéresser donc à des excitations électroniques et dans la gamme spectrale là, sur laquelle je vais me concentrer, finalement, ce sont des excitations des niveaux de cœur. Donc on va exciter des niveaux de cœur et on va aller peupler des niveaux inoccupés au-dessus du niveau de Fermi. Donc on va sonder, grosso modo, en première approximation, la densité d'état électronique inoccupé. Donc vous voyez ici deux signaux. Un signal qui correspond à un signal d'un métal de transition, ici c'est du fer, hein, d'un métal de transition, où on a excité des niveaux 2P, on va peupler des niveaux 3D de la structure électronique des états inoccupés. Et puis le seuil K de l'oxygène, c'est l'excitation des niveaux 1S vers donc, les niveaux de l'oxygène inoccupé. Donc je vous ai dit, je vais laisser tomber ce domaine spectral-là, qui est un domaine à beaucoup plus basse énergie, qui concerne les excitons, les transitions interbones, la mesure de gap optique, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc la spectroscopie de perte d'énergie d'électrons, vous voyez, puisque chaque niveau de cœur est évidemment caractéristique d'un élément donné, va permettre de faire de l'analyse élémentaire, si je m'intéresse donc à la position d'un signal ici spectroscopique, je vais donc pouvoir savoir quels éléments j'ai dans l'échantillon. Et puis je vais évidemment pouvoir aller plus loin en m'intéressant à la forme du signal, et pas uniquement à sa position. Si je m'intéresse à la forme du signal, pardon, je me mélange dans les... À ce moment-là, je vous ai dit qu'en première approximation, on sondait une densité d'état électronique inoccupée. En réalité, et c'est particulièrement faux, dans le cas des métaux de transition, où il y a des fortes corrélations, ce que l'on sonde, c'est un état excité. Donc, c'est un état où on a créé un trou sur le niveau de cœur et on rajoute un électron donc, dans sur les états inoccupés. Il faut prendre en compte cette interaction forte, les corrélations importantes entre ce trou et cet électron pour décrire correctement le spectre. Et donc, dans ce cas-là, donc en particulier dans le cas des métaux de transition, on ne décrit pas un état fondamental, mais un état excité. Alors, je vous illustre ça. C'est de la cartographie élémentaire. Donc, je vous l'illustre à partir d'une hétérostructure titanate de strontium PTO, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Vous avez ici l'image de fond noir annulaire. Et vous avez ici l'intensité, donc la distribution, la carte élémentaire, donc l'intensité de chacun des signaux caractéristiques, du strontium et du plomb. Et vous voyez donc que ces deux cartes ici montre des interfaces particulièrement abruptes. Il n'y a pas d'interdiffusion aux interfaces, il n'y a pas d'interdiffusion cationique, et ça, c'est particulièrement important, en particulier pour comprendre, par exemple, les fameux vortex là, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, juste quelques chiffres pour vous donner une idée. Ici, ce qu'il faut voir, c'est donc que ces cartes élémentaires sont calculées en représentant l'intensité d'un signal caractéristique en fonction de la position de la sonde. Et pour construire une telle carte élémentaire, ici, on a fait l'acquisition d'une centaine de spectres suivant cette direction-là, Donc là, on a acquis 10 000 spectres, typiquement. 10 000 spectres, c'est quelque chose que l'on sait faire maintenant, en un quart d'heure à peu près, parce qu'on a des temps d'acquisition de 5 millisecondes. Donc la possibilité d'acquérir donc des très très grands nombres de spectres et d'exploiter a posteriori toute l'information spectroscopique contenue dans ces milliers de spectres. Alors, je vous ai parlé de la forme des signaux. Là, j'en dis deux mots très 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 rapidement sur le seuil du titane. Antoine m'a beaucoup facilité la chose, donc je vais aller très très, très vite là-dessus. Lorsque l'on veut sonder la structure électronique du titane, le seuil privilégié, c'est le seuil qui permet d'explorer les transitions vers les niveaux de cœur 2P vers les états 3D. Alors, ce que l'on va mesurer, c'est effectivement ces transitions, ici. Le niveau 2P de seuil de départ, il va être splitté à cause du spin orbite. Donc, en fait, il y a deux niveaux de départ, 2P1,5, 2P3,5, avec en raison du couplage spin orbite. Et puis, on va transiter donc vers des niveaux 3D. Et ces niveaux 3D vont être effectivement sensibles à un certain nombre de paramètres, et en particulier au champ cristallin. Vous avez ici donc la levée de dégénérescence en état T2G et en niveau T2G et EG, dont a parlé Antoine. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, si je suis en symétrie octaédrique, je vais voir 4 raies au niveau de mon seuil de titane. Et puis, on peut ensuite s'intéresser donc, à des symétries qui sont un peu moins symétriques, justement, ça s'écarter de la symétrie cubique. Vous avez ici la symétrie tétragonale, où vous avez des levées de dégénérescence supplémentaires qui vont manifester et qui donc sont, a priori, vont pouvoir être sondées, justement, en regardant le seuil L2-3 du titane. Et puis, Alexandre détaillera justement ce cas-là, où il y a une brisure de symétrie qui est un peu radicale, qui est introduite par une interface, et donc avec justement une reconstruction orbitalaire et un repeuplement des orbitales induit donc par cette brisure de symétrie à l'interface. Donc Alexandre en dira deux mots. Voilà, donc je vous illustre ça, les quatre pics dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein, les quatre pics ici que l'on identifie très bien, hein, la raie L3, la raie L2, à chaque, vous avez T2G, EG à chaque fois. Et donc ce que je vous montre ici, c'est plutôt les performances hein, de l'instrument pour véritablement acquérir une signature spectroscopique sur une colonne atomique individuelle ou unité cellule atomique par cellule atomique et voir justement comment l'effet du champ cristallin va être perceptible, va être mesurable cellule atomique par cellule atomique dans un système comme ça, STO-PTO, où on va avoir des distorsions, un écart justement, une tétragonalité induite justement par PTO. Et ce qu'on avait montré à l'époque, et ce n'était pas forcément tout à fait intuitif, c'est que finalement la ferroélectricité, elle se propage dans des hétérostructures, elle se propage dans STO, et ça on l'avait mesuré justement grâce à la mesure du champ cristallin. Alors je termine en m'intéressant au signal du manganèse, au seuil du manganèse. C'est une collaboration avec Jean-Marc Triscon, hein, comme la précédente. C'est des hétérostructures nickelate manganite, donc LNO, LMO. Et ce que je veux montrer ici, Ce que je veux montrer ici, c'est le fait que, vous voyez que lorsqu'on fait la cartographie élémentaire de ce système-là, on voit que les deux interfaces ne sont pas équivalentes. Si on fait croître LNO sur LMO, on voit une certaine interdiffusion sur deux plans atomique ici, alors que si je fais croître LMO sur LNO, cette interdiffusion est très réduite et j'ai une interface qui se réduit à une monocouche. Alors ça, c'est une première information. Maintenant, si je regarde le signal du manganèse associé, je vais m'intéresser cette fois-ci à la position du signal, à la position de la raie L3. Je ne vous la montre pas ici, mais je vous la montrerai tout à l'heure dans un autre exemple. On peut donc cartographier véritablement le déplacement de cette raie L3 qui va être une indication du changement de valence du manganèse, de la variation, de l'évolution du peuplement hein, des orbitales 3D. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on s'approche de l'interface interdiffusée ici, on a une variation, un shift vers les hautes énergies qui est indicatif du fait que le manganèse qui est 3+ dans LMO devient 4+ à l'interface. Et donc en fait, cette interdiffusion, elle s'accompagne d'un transfert de charge entre le manganèse et le nickel. Le nickel, qui est également 3+, devient 2+. Donc, un transfert de charge Mn3+, Mn4+. Et ça, c'est ce qui nous a permis d'interpréter à l'époque, de manière assez simple, hein, l'apparition d'un ferromagnétisme dans ces systèmes induits justement par l'interface et par ces effets de reconstruction aux interfaces. Le dernier exemple, c'est toujours sur le signal du manganèse. Après, je vais placer la parole à Alex. On en a déjà parlé. Hein. Ici, j'ai BFO. Ici, j'ai une manganite de calcium ici, qui est donc un isolant de Mott. Hein. Et donc, l'idée, là, c'est justement de piloter hein, la transition métal-isolant dans l'isolant de Mott en injectant des charges grâce aux charges interfaciales ici. Dont on va essayer de piloter la concentration grâce au ferroélectrique ici. Alors, je ne vais pas m'intéresser à la concentration de charge aux interfaces, je vais m'intéresser à deux domaines ici, où vous voyez peut-être que la structure cristallographique est un peu différente. Dans ce domaine-là, ce qui a été observé, c'est une mise en ordre des lacunes en oxygène. Et si je m'intéresse au signal de manganèse, vous voyez qu'on a un shift vers les bases énergie ici, donc une tendance à aller vers du manganèse 3+, dans la zone où il y a une mise en ordre des lacunes en oxygène. Et donc ça c'est mesurable ici, hein, avec un déplacement de 40 millielectronvolts. Et donc ça, mesurer des déplacements chimiques comme ça, de quelques centaines de millielectronvolts, voire moins, c'est un sport auquel Alex se livre régulièrement et de plus en plus, pour essayer donc justement de cartographier la charge dans des hétérostructures. Et vous voyez qu'on est capable, dans les cas favorables, de détecter des fractions vraiment d'électrons, quelques centièmes d'électrons, grâce à des shifts d'une vingtaine de milliélectronvolts. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'en ai fini avec les principes. Donc Alexandre va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ah, le micro.
Oui, ah, pardon. Pardon et merci. Oui, merci. Je vais continuer. Alors, je voulais donner quelques exemples d'application de cette technique pour l'étude de films minces d'oxyde. Et essentiellement, c'est ce qu'on avait discuté avec Antoine Georges, de voir le lien entre le substrat et une reconstruction structurale sur le film mince. Alors, j'ai pris trois exemples qui ont été faits dans l'équipe, mais agrémentés de temps en temps par de la biblio connexe. Pour voir cette influence du substrat sur les films minces. Le premier concerne des perovskites, en fait, et l'étude de bi-interface de LAO-STO. Alors, c'est un travail qui est en cours, hein, qui n'est pas publié. J'ai quand même choisi cet exemple parce que c'est une collaboration avec Jean-Marc Triscon, et la semaine dernière, il avait longuement parlé, en fait, de LAO-STO. Ensuite, je donnerai un exemple de la mesure des rotations d'octaèdres d'oxygène dans une manganite. Et puis, je finirai sur un système qui est de symétrie plus basse, si j'ai le temps, hein, qui est un oxyde de vanadium qui a une transition métal-isolant. Je commence sur ce premier exemple qui concerne l'étude de bi-interface de LAO-STO et l'étude de contraintes et de relaxation de contraintes sur ces systèmes. Mais avant, je tiens juste à dire que les contraintes de couches minces dans les semi-conducteurs d'oxyde, c'est intéressant, mais j'allais dire que c'est utilisé de façon intensive dans des semi-conducteurs classiques, je dirais, les industriels. Dans le silicium, la mobilité dépend de la contrainte. Et donc, c'est quelque chose qui est modulé dans les devices. Alors, en réponse à ce fait, j'allais dire, a été développé depuis une dizaine d'années par un certain nombre de groupes de microscopie, et notamment à Toulouse, des moyens pour mesurer les effets de contrainte de façon assez propre, par microscopie électronique en transmission. Alors, par mesurer les effets de contrainte, je dirais, c'est mesurer les déplacements d'atomes, de préférence de quelques picomètres, en ayant une référence quelque part. Donc, l'idée, par exemple, est de voir comment évolue, l'espacement du silicium quand on est loin de l'interface et quand on est plus près, de la grille et du canal. Il y a deux moyens de faire ce type de travaux, hein, essentiellement. Le premier, c'est de faire des images et d'analyser les images pour voir les déplacements d'atomes, c'est ce qui est fait dans cet exemple en haut. Et puis, quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est de faire de l'holographie, on peut avoir des mesures de déplacement sur des champs plus larges, ce qui peut être intéressant si on veut voir une partie plus large, j'allais dire, du dispositif. Et dans ces exemples-là, qui sont quand même assez, state of the art, on peut, c'est ce qui a été fait à Toulouse, on peut mesurer des déplacements suivant X, donc une contrainte, je crois, tensile dans ce cas-là, suivant X dans le silicium, avec ici l'échelle, c'est 1%, donc moins de 1%, beaucoup plus propre que 1%. Alors maintenant, je retourne sur les oxydes, hein, c'était quand même le but de ce cours et donc du séminaire associé. En regardant le cas de STO, LAO, bilayer, mais plutôt bi-interface. Alors, c'est un travail, c'est des échantillons faits par Jean-Marc Triscon. L'idée, c'est qu'il y a un gaz bidimensionnel qui apparaît à l'interface entre STO et LAO, et l'idée est d'avoir plusieurs gaz, éventuellement probablement d'aller vers des super réseaux et de coupler les propriétés de ces gaz. Ici, évidemment, je ne me restreindrai qu'à la partie structurale, et notamment puisque c'est vraiment des travaux en cours. Alors, ici, on a STO substrat, le LAO, qui apparaît plus blanc. A priori, il y a un gaz bidimensionnel à cette interface. Et là, il y a un film mince et une autre couche de LAO, et donc, a priori aussi, un autre gaz bidimensionnel à cette interface. Là, c'est une image, finalement, on a filtré une fréquence spatiale pour voir un petit peu les plans atomiques suivant une direction. Et alors, les microscopistes de la salle peuvent deviner des contrastes sur la deuxième couche. Pour ceux qui ont moins l'habitude, en fait, ce qu'on voit apparaître assez rapidement, c'est des dislocations, par exemple, sur la deuxième interface qui ne sont pas présentes sur la première interface. Alors la dislocation, le cœur des dislocations apparaît là. Ici, on a STO et puis LAO et un plan supplémentaire. Si on filtre une fréquence spatiale, on voit vraiment apparaître un monoplan. Alors LAO, en pseudo-cubique, est un peu plus petit que STO, ce qui fait que LAO doit être mis sous une contrainte tensile, du moins sur cette partie-là. Là, a priori, il y a justement relaxation, puisqu'il y a des dislocations. Alors si on utilise les mêmes techniques que je vous ai montrées pour le semi-conducteur silicium et silicium-germanium, mais pour ces oxydes, on peut, imager, mapper une tétragonalité locale qu'on va définir comme un rapport C sur A, c'est-à-dire le plan out of plane, quoi, la distance out of plane, suivant cette direction, par rapport à la distance dans le plan, in plane. Quand on est dans le STO, on est près de 1, c'est même la référence, donc ça doit être 1. Quand on arrive vers LAO sans dislocation, c'est-à-dire l'interface classique, on voit en fait une diminution du rapport C sur A, dû au fait que LAO est pris en contrainte tensile, donc l'axe C se restreint. On peut voir deux lignes blanches au niveau des interfaces. En fait, il y a des modulations et une augmentation du rapport C sur A pour STO quand on arrive à l'interface, et c'est connu pour ces systèmes. Je vous montre une référence aussi juste après. Alors, quand on va vers la deuxième interface, qui a des dislocations, on voit que le rapport C sur A est fortement modifié. Évidemment, près des dislocations, c'est très différent. On va avoir des contraintes très fortes au niveau du cœur des dislocations. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que, par exemple, cette ligne blanche, c'est-à-dire cette légère augmentation du paramètre out of plane avant l'interface, c'est-à-dire dans le côté STO, se trouve décalé en fait plutôt du côté LAO quand il y a une dislocation, et on a plutôt un contraste sombre associé à une diminution du rapport C sur A avant l'interface. Donc on voit que ce jeu de dislocation change pas mal la tétragonalité sur le système, et là en fait j'ai pris un profil de cette image. Alors je vous ai dit, il y a effectivement une petite expansion du paramètre normal à l'interface dans STO. Ça, c'est issu d'une littérature récente. On a la distance des plans parallèles à l'interface. Donc là, ça correspond à cette première interface. Donc il y a une contrainte parfaite, il n'y a pas de dislocation. Le long de l'interface, XY ne bouge pas, pour faire simple. Et le plan suivant Z augmente, et les 2-3 cellules unitaires du côté STO ont une expansion de l'axe C qui correspond à peu près à cette distance. Donc ça, c'est, je vais dire, un comportement classique de reconstruction à l'interface STO et LAO. Et quand on met des dislocations, c'est assez différent. On avait vu qu'il y avait moins de reconstruction. LAO est plus cubique et on a une petite diminution du paramètre C sur A. Si on passe pas loin d'une dislocation, on a vraiment, bien sûr, une diminution assez forte du rapport C sur A au niveau du STO. Alors on voit effectivement une tétragonalité qui change pas mal sur ces systèmes en fonction des défauts et de la relaxation de la contrainte ou pas. Alors là, je repasse sur quelque chose qui est connu, c'est issu de la littérature de Zaluzzo, entre autres, qui concerne, pour ces systèmes de LAO-STO, une hiérarchie orbitalaire du côté STO, et c'est les orbitales 3D du titane, tant le T2G que le EG, mais c'est plus intéressant le T2G, parce que c'est ce qui est en bas de bande, et c'est eux qui reçoivent les électrons. Alors, ce qui est connu, et ça a été démontré notamment par tous ces travaux de dichroïsme linéaire au rayon X, c'est qu'un STO, un STO surface, a une hiérarchie orbitalaire de type XZ, YZ plus bas et, l'orbital dans le plan XY plus haut. Et quand on met du LAO dessus, il y a une inversion de ces deux, de cette hiérarchie, et c'est 3DXY qui descend. Bon, de 50 millivolts dans les travaux de Zaluzzo, ça peut être un peu plus, un peu moins. La DFT voit aussi des choses un peu différentes, mais cet ordre, par contre, est bien établi. Alors ça, ce sont des mesures anisotropes, c'est-à-dire en utilisant la polarisation linéaire du rayon X, et donc on peut voir vraiment, on peut sonder plutôt des orbitales hors plan ou dans le plan de l'interface, ce qui permet finalement d'être assez précis sur... d'élever de dégénérescence pour des orbitales de symétrie différente. Ce qui a été montré par ces travaux de Zaluzzo aussi, c'est qu'il y a une signature de cette hiérarchie orbitalaire sur les spectres isotropiques, ce qui est moins évident. Ici, on voit en fait les spectres isotropiques, donc les excitations du titane aussi. Et ce qui avait été montré, en fait, c'est un déplacement en énergie d'un des seuils. Alors, on retrouve les quatre pics exposés par Odile, avec une séparation d'abord en deux par le spin orbit des états de P, et ensuite essentiellement un splitting par le champ cristallin. Et ce qui avait été montré dans ces travaux, c'est que l'un de ces seuils, qu'on va appeler EGB1, en fait, se déplaçait vers les hautes énergies à partir d'une certaine quantité de LAO associée donc à cet ordre orbitalaire. Les déplacements observés, alors là c'est le déplacement de ces pics mesurés au synchrotron en fonction du nombre de couches de LAO, et ce déplacement était typiquement de 50-60 millivolts. Alors nous, en ILS, on a du mal à faire des mesures dichroïques, et on aurait vraiment du mal à les faire sur une seule cellule unitaire. Mais par contre, on peut faire des spectres isotropiques avec une qualité relativement similaire à celle-ci, avec une résolution, atomique. Alors, je reprends ce même système avec l'interface dite classique, et ici, les interfaces qui présentent des dislocations. Et ce qu'on a pu observer, typiquement, c'est que le déplacement de 60 millivolts, en fait, de ce pic, associé donc à une reconstruction orbitalaire, était observé sur, typiquement, les deux cellules unitaires du STO à l'interface, donc c'est vraiment la structure fine à l'interface, alors que lorsque l'interface était relaxée par des dislocations, les déplacements étaient plus faibles. Dans le transparent suivant, on voit d'ailleurs l'intérêt de faire du STEM-IL, c'est-à-dire de l'imagerie et de la spectroscopie, puisqu'on est donc sur ces systèmes-là de bi-interface, avec une première interface et une seconde interface STO et LAO, et ici il y a une dislocation. On peut mesurer le rapport C sur A, donc avoir une information structurale, localiser la position des interfaces, et ici faire un profil du shift de cet orbital mesuré par ILS, et voir par exemple qu'effectivement la première orbitale a à peu près 40-50 millivolts de déplacement, alors que là on est très près du cœur de dislocation, donc on est à un endroit où le rapport C sur A est quand même très fortement modifié. L'orbital, en fait, l'énergie shift dans un sens différent. Donc on voit vraiment le lien entre structure et structure électronique et reconstruction orbitalaire. Alors ce qu'on a montré dans ces travaux, finalement, c'est... Enfin, je vais plutôt le dire différemment. On s'est intéressé, finalement, à la levée de dégénérescence des états T2G et EG. Alors on sonde essentiellement les états EG en spectroscopie, mais ce qui est quand même intéressant, c'est les états T2G, mais ils sont en partie reliés. Hein. Et donc ces levées de dégénérescence de l'état T2G sont attribuées de façon classique à un certain nombre de choses, la distorsion, mais dans le cas d'une interface à des symétries plus faibles, notamment due à la perte de la symétrie d'inversion, aussi les effets de confinement qui jouent différemment en fonction du poids des bandes et d'autres choses. Nous, ce qu'on observe finalement, c'est un rôle de dislocation qui peut jouer sur ce ordering d'orbital, en fait. Probablement, là où il y a des dislocations, le splitting de l'orbital est plus faible. Alors, ce sont des travaux en cours, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément étonnantes. Il y a eu, par exemple, des calculs de DFT qui montrent que si on change un petit peu la contrainte de ces films de STO et LAO, on va changer un petit peu la levée de dégénérescence de ces orbitales. Alors ici, c'est des structures de bandes, et la levée de dégénérescence, on peut l'avoir au point gamma. Hein, finalement, ce qu'on a vu précédemment, ça correspondrait essentiellement à la différence d'énergie entre les bandes non dispersives et les bandes... la levée de dégénérescence peut se voir en ce point gamma. Là, c'est compliqué parce qu'il y a toutes les bandes. Donc il faut regarder un peu en détail ou projeter localement. Mais en fait, on voit qu'on peut jouer, que le strain peut changer typiquement d'une dizaine, vingtaine, trentaine de millivolts ses levées de dégénérescence. Encore une fois, l'un des désavantages du STEM-ILS, c'est d'être une signature essentiellement isotropique, surtout à l'échelle atomique. Et il conviendrait, c'est probablement ce qu'on va faire, d'aller étudier ces échantillons par dichroïsme linéaire pour aussi voir et confirmer s'il y avait des changements de hiérarchie orbitalaire, qui ont été vus pour certains types d'interfaces. Par exemple, des interfaces de type 1-1 voient une différence, 1-0 voient une levée de dégénérescence différente. Alors, je vais passer sur un autre exemple, toujours de Perovskite. est plus associé au problème de rotation d'octaèdre d'oxygène. Alors, comme il a été rappelé dans le cours précédent, une perovskite cubique peut s'écrire avec un groupe d'espace et une notation de Glaser de type A0, 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 qui veut dire qu'il n'y a pas de rotation d'octaèdre suivant les trois axes. Alors, ici, j'ai représenté l'image. On a, je dirais, le titane au centre. En rouge, les oxygènes. Ici, on voit ceux dans le plan, mais il y a aussi les oxygènes là-haut et en bas pour fermer l'octaèdre. Et ici, les cations lourds. Et en fait, la maille pseudo-cubique est comme ça. Dans le cas de transition, pardon, de rotation suivant un axe, ici l'axe C, avec des octaèdres, je dirais, en rotation in phase, en phase l'un par rapport à l'autre, on voit ici la rotation, donc le titane et les quatre oxygènes en rotation. Et il faut imaginer qu'on ait plusieurs cellules unitaires suivant l'axe C qui nous regarde. Et en fait, comme c'est en phase, on ne voit qu'une seule colonne d'oxygène. Si on a des rotations hors phase, on voit apparaître un doublet d'oxygène. C'est ce qui a été présenté avant. Juste un point, je le mentionne ici, les groupes d'espace sont quadratiques et ont tous un miroir dans le plan. Mais ce qu'on voit, par exemple, quand on a une rotation en phase, c'est que les oxygènes sont reliés par le miroir, et quand les oxygènes sont déphasés, évidemment, ils ne sont pas reliés par un miroir. Miroir qui, ici, appartient au plan. Hein. Alors, on va s'intéresser à LSMO, en fait. Alors, LSMO a une structure plus faible, d'un point de vue symétrique, PNMA, qui, en fait, en notation de Glaser, se nomme A-A-C+. Alors, ici, en fait, on voit LSMO... Alors, quand c'est en film mince, hein, on voit LSMO projeté suivant 0,0,1 pour l'axe pseudo-cubique, et on voit, en fait, des rotations des octaèdres d'oxygène sans doublet, j'allais dire, à cet endroit-là, donc qui correspond bien à une rotation en phase. Si on projette suivant, ici, 1,0,0, on voit apparaître des doublets, en fait, et on voit bien, effectivement, qu'on est... out of phase, j'allais dire, suivant A, mais aussi suivant B. Alors ça a été montré dans le cours précédent. Quand on fait de la microscopie et qu'on veut pouvoir imager ces rotations, il y a d'autres plans, d'autres projections qui peuvent être plus utiles. Et par exemple ici, d'observer le cristal ou le film mince suivant une orientation pseudo-cubique de type 1, moins 1, 0. Et suivant cette projection, la rotation suivant A et B, en fait, fait apparaître ce type de chaîne zigzag avec des atomes d'oxygène, des colonnes, j'allais dire, quasi pures en oxygène, formant des chaînes de type zigzag. Et donc, typiquement, les effets de rotation vont particulièrement se voir suivant cette projection. Alors, d'un point de vue expérimental, c'est ça qui a été obtenu, c'est dans le cadre de postdoctorat de Chen Li, où on voit, en fait, c'est une image de LSMO, et on voit des chaînes zigzag, suivant cette projection, qui sont liées donc, la rotation des octaèdres d'oxygène. Ici, j'ai remis essentiellement les mêmes projections que précédemment, j'en ai rajouté une, et ici sont représentées les images de microscopie simulées, notamment par l'ABF, qui est sensible à l'oxygène. Alors, si on se met suivant 0,0,1, c'est-à-dire avec des oxygènes, des rotations d'oxygène en phase, on peut voir sur l'image simulée, les rotations des octaèdres d'oxygène. Si on projette suivant un axe out of phase, on voit des doublets apparaître, et en microscopie, même sur cette image simulée, on a du mal à voir quelque chose. On a juste les oxygènes un peu plus blurs, finalement, un peu plus flous. Ça, c'est la projection la plus favorable dans ce cas-là, où on voit apparaître clairement des chaînes. La symétrie de ce système n'est pas quadratique, elle est plus faible, donc il y a une différence entre 1, moins 1, 0 et 1, 1, 0. Et en fait, suivant 1, 1, 0, les rotations des octaèdres d'oxygène font apparaître des espèces de petits doublets d'oxygène qui ont des angles. La séparation spatiale projetée est typiquement de 30 picomètres, ce qui est plutôt très très faible, et par exemple, dans ces conditions-là, fort peu imageable. Alors on voit l'un des premières limites de la microscopie électronique en transmission, même, j'allais dire, à l'état de l'art, pour observer et mesurer les angles, c'est qu'il y a des projections qui donnent une information et d'autres projections qui donnent peu d'informations. Et on peut avoir du mal, par exemple, à avoir une information suivant les trois dimensions. Néanmoins, je tiens à mentionner qu'il y a des papiers, notamment un papier de Hay en 2015, qui propose d'aller vers le 3D mapping, j'allais dire, de ces rotations d'octaèdres, en poussant vraiment la microscopie peut-être à ce qui est limite maintenant, mais peut-être pas si limite que ça dans les deux prochaines années, je dirais. Et l'idée est typiquement justement d'aller regarder la forme de ces taches associées aux oxygènes suivant différentes projections. Alors ce qu'on voyait dans le transparent précédent, c'est que typiquement si on a une projection comme celle-ci, on peut voir que les oxygènes sont placés différemment, de façon symétrique ou pas. Et l'idée est de pouvoir imager la symétrie des taches et par exemple d'être capable de faire des différences entre une symétrie de type A-B+ et C- et A-B+ et C+, en ayant l'axe C suivant le plan d'observation. Et typiquement, la différence entre un C- et un C+, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est le fait de perdre le miroir entre les oxygènes. Et ici, on garde un miroir suivant les oxygènes, et ici, il disparaît. Donc, à partir de ça, on peut espérer avoir une idée, éventuellement, de la rotation des octaèdres, des oxygènes, et de savoir si c'est en phase ou pas, suivant les trois axes. La quantification de l'angle est probablement encore plus difficile, et ceux qui veulent peuvent voir des détails sur cet article. Il est proposé une méthode, éventuellement, pour mesurer ces angles. Mais encore une fois, c'est un peu difficile, on est à la limite de ce qu'on doit pouvoir faire maintenant en microscopie, mais peut-être pas dans les 2-3 ans qui viennent. Alors, je vais revenir sur, un matériau en couche mince. Que se passe-t-il, en fait, quand on prend un matériau sans rotation, typiquement STO, et on y met en interface, en couche mince, du LSMO? Et on voit qu'il y a un problème, pour rembrancher les oxygènes à l'interface. Alors, ici, c'est issu d'un travail où on regardait des couches minces de LSMO et de STO, essentiellement en super réseau. Ce qu'on a pu voir, c'est que quand le LSMO avait une certaine épaisseur, on pouvait réobserver ces chaînes zigzags et finalement avec des valeurs assez proches de ce qui est attendu pour le massif, notamment si le LSMO a par exemple une quinzaine de cellules unitaires d'épaisseur. Pour des couches très très minces de LSMO, par exemple 4 cellules unitaires sandwichées dans du STO, en super réseau, on peut voir en fait une quasi-suppression de la rotation des octaèdres d'oxygène suivant l'axe projeté. En fait, hein. Et en fait, la rotation est quasiment nulle. Mais là encore, le point à mentionner, on a peu ou pas d'informations sur la rotation, suivant l'autre plan. Et c'est très difficile à voir, et je pense que c'est une vraie inconnue encore. Il y a, comme il a été rappelé pendant le cours, des calculs ab initio qui montrent, mais c'est dans des contextes, c'est vrai, différents, de contraintes homogènes, une anticorrélation entre les angles alpha-bêta et gamma. Donc là, on pourrait imaginer que si alpha-bêta est à zéro, gamma peut être pire, mais ce n'est pas évident, en fait. En fait, je pense que ça reste une inconnue. Je veux juste mentionner ces trois papiers. Alors celui-là, on est impliqué, ces deux-là sont d'autres équipes, qui utilisent la microscopie électronique en transmission pour essayer de voir un peu les distorsions, les rotations des octaèdres d'oxygène sur des systèmes. Et tous ces papiers montrent deux choses, donc sont cohérents au moins sur ces deux points. Le premier, c'est que pour ces systèmes de manganite, l'influence du substrat sur la couche mince a typiquement lieu concernant les rotations d'octaèdres d'oxygène sur 3, 4, 5 cellules unitaires pour ces manganites. Alors c'est ce qui était très clair sur les super réseaux. Les super réseaux avec 4 cellules unitaires de LSMO sont radicalement différents. C'est aussi assez clair sur certaines interfaces. Et ce qui est aussi très clair, c'est que ça influe énormément sur le magnétisme et notamment l'anisotropie magnétique. Alors je ne sais pas si j'ai le temps pour le VO2, vous voulez que je peux sauter et aller aux perspectives.
Comme tu veux, ça prend combien de temps?
Je sais pas, avec les perspectives, il y a 10 minutes encore, je pense. On passe aux perspectives. Pas de problème. Alors, Les perspectives, justement, ça c'est le transparent qui finissait sur VO2, qui n'est pas issu de notre travail, où les gens font de l'observation en microscopie électronique en transmission, en faisant varier la température pour voir les structures changer lors d'une transition métal-isolant. Ici, en fait, c'est VO2, c'est cooling process, donc l'image de départ doit être à haute température, donc la phase finalement la plus symétrique. Il y a ici un défaut, en fait, alors c'est sur un rod, et la nature du défaut, je ne m'en souviens plus exactement, mais il y a observation lors de la descente en température, et on voit apparaître à un moment, ça se voit assez mal sur l'écran, mais on voit quand même peut-être ici des doublets, en fait, je ne sais pas si on les voit bien, qui correspondent à la symétrie plus basse. Et l'idée, en fait, c'est de voir que la transition commence au joint de grain. Elle nuclée au joint de grain. Et à un moment, voilà, ça part des deux côtés. Donc c'était de l'in situ. Dans les perspectives de la microscopie électronique en transmission pour l'étude de ces systèmes d'oxyde, je voulais mentionner deux perspectives qui se développent fortement, deux approches qui se développent fortement. L'approche in situ, la température, par exemple, comme on a vu avant, mais aussi le fait d'appliquer des voltages pour in situ faire des choses. Alors, l'in situ en microscopie, ça fait des décennies que les gens en font. Le véritable, donc, changer la température, tirer, pousser, etc. Le problème, en fait, c'est que souvent, pour pouvoir faire ce type d'expérience, les capacités, j'allais dire, microscopiques et spectromicroscopiques de la machine sont fortement dégradées. Donc, pour faire simple, c'est souvent de l'in situ dans un mauvais microscope, parce que bon, il y a des raisons techniques pour ça. Avec la nouvelle génération de machines, on peut garder une meilleure microscopie et faire de l'in situ. Donc, c'est pour ça que je pense que des sujets en fort développement. J'ai pris ça de la littérature, je pense que c'est assez récent. Alors, c'est 2017. C'est une couche de LSMO encore sur du STO. Une pointe est appliquée à l'intérieur du microscope sur le LSMO. Et au sein du microscope est effectuée une mesure de switch de résistivité en fonction du voltage appliqué, en fait. Et on peut voir un petit switch résistif au sein du microscope. Et pour différents états, de la couche, une analyse structurale, en fait. En jaune, c'est une structure type perovskite. En vert, c'est une structure de type Brown-Millerite qui correspond à des lacunes d'oxygène avec un nombre suffisant de lacunes d'oxygène pour qu'elles soient ordonnées. Et on peut suivre en fait les déplacements de ces domaines en lien avec la résistivité du système. Et entre autres, dans le cas présent, les systèmes de forte résistivité correspondent plutôt à la Brown-Millerite où les lacunes d'oxygène sont ordonnées. Donc l'in situ est un des premiers développements. Le deuxième développement, en fait, et on aura un équipement de ce type-là qui doit arriver cette année, c'est, d'aller vers une très forte monochromaticité. À l'heure actuelle, on fait des manips avec typiquement 300 millivolts de résolution en énergie, ce qui permet quand même de voir des déplacements chimiques, par exemple de 50 ou 60 millivolts, puisque la stabilité est suffisante, mais par contre, la résolution en énergie est plutôt de 300 millivolts. Et avec des nouvelles générations de monochromateurs, on pourra aller vers une vingtaine ou une dizaine de millivolts pour la spectroscopie de perte d'énergie d'électrons, ce qui permettra d'ouvrir vraiment une nouvelle gamme de spectromicroscopie, notamment celle assez proche du RIX, au synchrotron, qui permet d'étudier des petits bandes gap ou des transitions DD qui sont difficiles d'étudier, voire même des modes collectifs associés au degré de liberté de ces oxydes. Ici, ce n'est pas le cas d'un oxyde, mais on voit déjà un pic phononique observé dans un microscope. Alors, c'est les deux approches que je voulais mentionner, l'in situ et la très forte monochromaticité, qui, à mon avis, se développeront massivement dans les cinq prochaines années. Et je finirai donc par remercier l'équipe STEM, et notamment tous ceux dont j'ai montré quelques résultats, et mentionner que ces résultats, notamment ceux montrés dans ce séminaire, sont issus de collaborations, notamment la collaboration avec l'équipe de Jean-Marc Triscon à Genève, l'équipe de Manuel Bibès et d'Agnès Barthélémy à Thalès, et puis pour le LSMO aussi avec le Max Planck à Stuttgart. J'ai mis quelques références de revues. La première revue est une revue assez générale sur le STEM, ILS. Cette revue par Mathieu Kosiak est très sur les perspectives, Et ici, j'ai mis trois revues qui sont plus sur les oxydes, en fait. Et c'est tout. Je vous remercie.